Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, 10e entretien. Pour un Malherbe, pour une nouvelle culture.
Vous avez écrit un « Pour un Malherbe ». Là encore, malentendu, contresens, beaucoup y ont vu comme une sorte d'apologie classiciste, alors qu'il s'agit d'un livre provoquant et écrit manifestement à partir d'une intention subversive, à partir justement de Lautréamont et des poésies de Lautréamont. Malherbe vu depuis la grande coupure historique qui est pour nous la fin du XIXe siècle, la Révolution dont nous avons parlé. Je voudrais que, dans ce livre si complexe, nous essayons de souligner un certain nombre de points. D'abord, ce qui me semble très important, c'est ce que j'appellerais la décision de langue qui vous a fait vous attacher à Malherbe. Ensuite, ce que j'appellerais la décision d'une sorte de programme global que vous définissez par un ensemble de quatre mots. Révéler, élaborer, raffiner, abolir. Enfin, j'aimerais que nous parlions et que vous nous parliez de cette formulation que je trouve être une sorte de théorème de l'activité de l'écriture telle qu'elle doit être pratiquée en faisant jouer toute la profondeur de la langue. C'est la suivante: rien à dire égale tout à dire. Rien à dire égale tout à dire vous conduit à réintroduire le concept de poésie, mais d'une façon cette fois-ci radicalement modifiée, puisque vous êtes amené à dire que la poésie est la science par excellence. Et j'aimerais que vous nous disiez pourquoi et quels sont ces rapports entre poésie et science à l'intérieur de cette nouvelle définition.
Oui, je commencerai par cette lecture d'un brief note à l'intérieur du Malherbe. Un des points importants de mon Malherbe est celui-ci. On ne peut commencer à saisir l'importance relative et absolue de cet auteur que depuis Lautréamont, c'est-à-dire depuis que nous pouvons considérer une certaine littérature française comme close, terminée, enfermée à double tour, bouclée. Depuis aussi que, lecteur comme auteur, tout le monde a pris vraiment l'habitude d'être allé et revenu de tout. Je repars sur un autre fragment. La langue, telle que depuis 700 ans elle se donne, nous laisse un peu loin de compte pour ce que nous avons à exprimer. Il nous faut prendre la parole. Autre fragment. Le premier mot de cette étude doit être pour se constater lui-même comme écrit en français. L'accord sur ces signes continue. Constatant cela, nous le voulons. Nous n'abandonnerons pas le bâtiment, puisque nous ne l'abandonnons pas. Mais le moment est dangereux. Nous avons besoin de pantanières, c'est-à-dire de cordes pour tenir les haubans roides pendant la tempête. Il serait absurde que nous ayons à les tresser de nouveau. Nous pouvons demander leur secret, au pluriel, à des gens comme Malherbe ou Cézanne. Ce n'est pas de l'archéologie. Nous vivons dans le moment présent. Mais nous sommes la cime d'un arbre qui a connu de pareils moments, surtout au moment de sortir du sol. Malherbe est de cela, il est le tronc de la francité. Autre fragment. À notre époque, c'est plus grave, plus profond que jamais. Il ne s'agit plus de l'honnête homme, mais de l'homme. Il s'agit assurément d'une nouvelle civilisation, telles que celles que nous connaissons par l'histoire des civilisations, par exemple Sumer, l'Égypte, le Mexique, la Grèce. Mais il s'agit ici de la France et de la francité. Notre langage, c'est la langue française, nous ne pouvons en sortir. Parabole de l'arbre, Malherbe tronc, Lautréamont fin d'une certaine littérature. Comment une feuille extrême se retourne vers le tronc pour le révérer, et qu'il faut bêcher à son pied, contre les entassements critiques, contre les reconstitutions alla violer le duc. Nouveau fragment. Peut-être un jour s'apercevra-t-on. Peut-être deviendra-t-il clair que la principale qualité d'une œuvre de langage, qu'il s'agisse de prose ou de vers, de philosophie ou de poésie, comme aussi bien de technique ou de journalisme, lui vient du goût qu'elle révèle quant au choix et à la mise en place des valeurs verbales, mots ou syllabes, qui la constituent. Enfin, des sons significatifs dont elle est faite, lesquels se trouvent encore, depuis l'invention de l'écriture et plus encore depuis celle de l'imprimerie, être sensibles à l'œil. Quand je dis la qualité principale, je veux dire celle qui assure l'effet le plus certain et le plus durable à la fois sur les sens et sur l'esprit de l'homme. Quand je parle du goût qu'elle révèle, c'est que ce choix et cette mise en place sont commandés non du tout uniquement par la raison, mais par le goût, par les sens, par une sorte d'instinct antérieur à ce goût. Mais comme aussi, dans les œuvres de langage, la signification a une importance fort grande, aussi bien quant aux besoins qui les conditionnent, à la nécessité qui est à leur origine, que quant à la possibilité d'accueil, d'accord qu'elles supposent et attendent de la part du lecteur ou de l'auditeur, c'est pourquoi le goût dont je viens de parler, goût physique, goût des oreilles et des yeux, des valeurs tonales et formelles, ne s'exercera-t-il, pour ainsi dire, que par des censures, c'est-à-dire qu'étant donné ce qui est à dire, à faire entendre, à communiquer, l'écrivain refusera de le dire autrement que d'une certaine façon, selon telle allure, tel timbre, etc., qui est justement celle que lui impose son goût, celui de ses sens. Il s'agit en somme ici d'un surcroît d'exigence, et donc, naturellement, si cette exigence est satisfaite, d'un surcroît de satisfaction et de volupté, qui est sensible à ce genre de valeur, est un lecteur pour la poésie. Nouveau fragment. Musique pythagoricienne. Le plus admirable est que ce ne sont pas des formules abstraites. Elles participent de la géométrie, des nombres, mais il s'agit de nombres concrets. Il s'agit de paroles, non de chiffres. Il s'agit des nombres concrets du verbe qui ont rapport aux choses. Il s'agit de la nomination de choses du monde sensible en nombre sensible. Bien marquer la différence entre les nombres de la géométrie, de la mathématique, et ceux du verbe du monde sensible. Les uns ne sont que des divisions quantitatives de l'unité. Les autres sont des espèces de la pluralité, des variétés de la vie, des harmoniques ou divisions qualitatives de l'unité. Elles signifient la vie, la variété. Elles exigent moins de l'esprit et risque donc moins de partager ses erreurs. La poésie est alors la science la plus parfaite, non la mathématique ni la musique. Tout ceci, ajoutai-je, senti intuitivement par moi, est encore trop confus, il me faudrait y revenir et essayer de préciser. Différence de la musique verbale et de l'autre, il s'agit ici d'un concert de vocables, de sons significatifs. Où la signification, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, le rapport aux choses du monde extérieur et son évocation précise, entre pour une part, une assez importante part. Encore un nouveau fragment. Pourquoi Malherbe est cependant le plus discuté de nos grands auteurs? Parce que c'est un monument abrupt, comme les murailles de Chaldée ou d'Égypte, poésie de pierre grise abrupte, raison abrupte. Nous circulons à son pied. Nous n'avons pas le recul nécessaire, nous avons le nez dessus. Même c'est une importance encore supérieure qui lui vaut notre incompréhension, car il se dresse à une hauteur telle qu'il rejoint au zénith les œuvres supérieures de tous les horizons, de toutes les autres civilisations, de tous les horizons civilisés. Quand les pétroles de Rouen flambèrent en 1940, les énormes colonnes de fumée et de flammes, la flamme à l'intérieur de la colonne de fumée, qui montaient de chaque bac, s'élevèrent avec une telle force ascensionnelle, d'un tel élan, avec une telle fougue, qu'elles me parurent se rejoindre au zénith. J'étais là, n'est-ce pas? Nous avons fait sauter la station magasin où j'étais militaire, qui était là au milieu des bacs de pétrole à Grand-Queville. Ainsi en est-il des œuvres les plus importantes de chaque civilisation. Ainsi en est-il de celle de Malherbe. Et voilà une figure assez neuve, peut-être pour le Parnasse ou le Panthéon universel. En quoi cette image n'est pas tellement inadéquate, celle de la tour de feu. La parole, en un sens, s'élève comme la fumée, mais elle n'est touchante, impressionnante, que dans la mesure où des flammes sont sensibles en son centre. La parole, douée d'une force ascensionnelle ardente, fougueuse, et qui monte tout droit malgré le mouvement baroque hélicoïdal des flammes, et qui donne l'impression d'une haute tour qui nous porte irrésistiblement d'un seul coup, dès les premiers mots, à un niveau supérieur. Pensez aussi aux tuyaux d'orgue, aux grandes orgues, aux cheminées par où passe le souffle, l'animation, et qui vibrent et produisent des ondes contagieusement entendues, ressenties fort loin.